Bonjour à tous, je suis Jérémy Royot, donc pour ceux qui me connaissent déjà, bonjour à vous. Pour les autres, donc je suis membre de l'Observatoire Zététique et je m'occupe de l'administration du groupe Facebook Zététique. Et c'est moi qui anime cet épisode de Scepticisme Scientifique aujourd'hui. Et pour ça, j'ai invité Olivier Bernard. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors Olivier Bernard, tu étais déjà passé sur le balado il y a 2 ans pour parler essentiellement du détox. Et c'était 1 an après la création de ton site, si je ne me trompe pas.
Exact.
Et donc ici, tu viens de sortir donc un livre donc, qui s'appelle Le pharmacien, différencier le vrai du n'importe quoi en santé. Et donc voilà, donc je propose peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas que tu te présentes brièvement.
Bien, certainement. Donc, j'ai créé en fait le site web Le Pharmachien en septembre 2012. Pourquoi ça s'appelle Le Pharmachien? En fait, je suis pharmacien de formation. Et puis, le côté chien, c'est mon côté un peu humoristique. Donc, c'est des dessins, c'est de la vulgarisation, c'est de briser des mythes scientifiques et puis d'expliquer des concepts reliés à la santé de manière simple et puis de manière drôle.
Ok. Et donc peut-être juste pour donner quelques petites informations donc par rapport à ton livre que tu viens de sortir. Donc il couvre toute une série de sujets. On trouve quelques chapitres sur les médecines alternatives, la médecine quantique, le Reiki.
Ouais.
On trouve des infos sur l'opposition entre le chimique et le naturel. L'idée par rapport à laquelle c'est surtout la dose qui fait le poison. On trouve aussi des infos sur l'évaluation de la dangerosité des médicaments et aussi des informations par rapport au vaccin et au mouvement anti-vaccin. Voilà, je cite quelques thèmes, mais il y a vraiment, on retrouve dedans toute une série d'autres thèmes encore que je ne vais pas citer, qui sont vraiment des thèmes sceptiques couramment abordés. Donc, tu as un peu fait le tour de toute une série de grands sujets. Et il y a aussi un thème assez marrant qui s'appelle Comment survivre à un dîner de famille. Donc, je pense que ça intéressera aussi pas mal de gens. Donc voilà, alors moi, une chose que j'avais envie de te demander, donc j'ai lu un peu ta, entre guillemets, la biographie qu'il y a sur ton site, et une
Oui.
chose que j'ai retenue, c'est que tu disais que tu avais travaillé pas mal dans la communication scientifique, et donc que tu avais même créé une société par rapport à ça, de laquelle j'ai vu les infos, donc qui s'appelle Synopsis. Et donc moi je me demandais ben, justement, visiblement, si tu as créé ce livre, que tu as choisi cette manière de communiquer, ce format, ben, c'est sans doute pas au hasard. Donc je me demandais si tu pouvais nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette manière de communiquer sur le scepticisme en fait.
Oui. Ben en fait, moi, dans mon travail de pharmacien, je dois constamment combattre toutes sortes d'idées étranges par rapport à la santé. Et puis j'étais un peu fatigué de toujours le faire à une personne à la fois, de toujours un peu répéter les mêmes choses. Je me trouvais pas très efficace. Donc j'ai voulu créer le site pour essayer d'être plus efficace, d'augmenter ma productivité pour comme propager des messages à grande échelle. Mais la santé, ça intéresse pas tout le monde. Et puis, je pense qu'on utilise toujours les mêmes méthodes aussi. Donc, moi, j'ai voulu vraiment y aller d'une méthode très différente, utiliser un ton qui est pas très commun chez les professionnels de la santé. Donc, premièrement, le fait que c'est illustré, c'est quand même assez inhabituel pour, du moins ici, en tout cas, c'est au Québec, au Canada, c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Puis le ton aussi très très sarcastique, l'humour assez incisif aussi, c'est pas vraiment classique au sein des professionnels de la santé. On voit pas ça vraiment vraiment souvent. Le livre, c'est vraiment une réflexion de mon site web. C'est vraiment la même idée, mais vraiment mis en un format qui est peut-être plus facile à consulter, format papier, là.
Oui, ben c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un sujet duquel on discute souvent entre sceptiques, c'est la manière de communiquer les idées scientifiques ou les idées sceptiques. Et ben finalement, ton livre rend effectivement vient un peu remplir une place qui était assez vide, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres formats. De ton côté, c'est le cas, mais je pense que dans les autres pays, c'est un peu pareil. Même en Amérique, j'ai pas beaucoup connaissance de ce type de manière de faire connaître le scepticisme. Donc c'est assez intéressant et je pense que évidemment c'est très difficile de déterminer quelle est la meilleure manière de communiquer pour les sceptiques. Il y a pas mal d'articles ou d'études sur la question, mais bon, au final, ça dépend du public, ça dépend du sujet. Voilà. Donc, je pense que le fait qu'il y ait toute une gamme de manières de faire du scepticisme qui sont différentes, bah, ça permet de parler à différentes personnes aussi, puisqu'on peut pas avoir une manière de communiquer qui parle à tout le monde.
Effectivement. Puis d'ailleurs, ici, le scepticisme a connu, ça a connu un certain, il y avait un certain intérêt il y a peut-être 15 à 20 ans, ou peut-être que j'exagère, là, peut-être une dizaine d'années, mais présentement, c'est assez mort, la zététique ou le scepticisme au Québec. Et puis moi, je trouve ça un peu triste. J'ai pas créé mon site web, le livre, tout ça, dans une perspective spécifiquement sceptique, mais étant donné que je le suis moi-même beaucoup, c'est sûr que ça transparaît dans énormément de mes sujets. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui redécouvrent un peu cette façon-là de réfléchir, la pensée critique. Et puis, je sens qu'il y a vraiment un intérêt pour ça. Mais je pense qu'il fallait peut-être amener ça un peu différemment. Les gens, c'est pas tout le monde que ça les intéresse de lire des textes de 3000 mots, sur Internet sur un sujet particulier. Tandis que quand c'est une petite bande dessinée, que c'est drôle, que ça prend 3-4 minutes à lire, mais à ce moment-là, on est capable d'aller intéresser des gens qui l'auraient peut-être pas été autrement.
C'est vrai que c'est vraiment une autre manière de faire. Et donc, tu as une idée par rapport à ce que tu viens de dire? Donc, qu'est-ce qui fait que le scepticisme est un peu mort, au Québec?
Ben en fait, j'ai une idée de pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est que ça intéresse pas nécessairement les nouvelles générations. Tu sais, je regarde les gens de mon âge et plus jeunes, ils n'ont pas d'intérêt pour ça. Quand je regarde dans les groupes sceptiques ici au Québec, par exemple, c'est vraiment des gens, par exemple, qui sont plus de la génération de mes parents.
D'accord.
Ou plus âgés, c'est tout simplement un fait. Donc, ils n'ont pas nécessairement la même façon de voir les choses. T'sais, ici, si je regarde ici les jeunes, par exemple, ils n'ont pas d'intérêt pour le scepticisme, ils n'ont pas envie de prendre des sujets puis d'en discuter sur Internet, dans des forums ou dans des groupes de discussion pendant des heures. T'sais. Fait que ça, c'est la réalité qu'on a ici présentement. Donc, à ce moment-là, mais t'sais, il faut essayer d'aller les chercher autrement. Puis d'un autre côté, je dirais que des fois, le scepticisme est peut-être vu comme étant, à la limite, quelque chose de péjoratif. T'sais, on peut dire, ah, lui, c'est un sceptique, donc c'est forcément quelqu'un qui est fermé d'esprit. À un moment donné, moi, je le sens ici, là, qu'il y a vraiment une association que les gens font entre scepticisme et fermeture d'esprit. Donc, moi, c'était important pour moi de créer quelque chose où ça n'a pas l'air d'être de la fermeture, ça a l'air au contraire d'être une ouverture, mais une ouverture où on encourage les gens à se poser plus de questions.
Ok, et par rapport à cette manière de faire, justement, est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu as comme retour de la part des gens, de la part des patients ou des amis ou autres?
Ben, le retour, il est excellent. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire, écoute, je savais pas quoi penser de ce sujet-là récemment, par exemple les probiotiques ou encore l'histoire de l'équilibre acido-basique et de l'acidose chronique, là, toutes sortes d'idées un peu farfelues. Beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire, écoute, je savais pas quoi penser de ce sujet-là, puis là maintenant, tu m'as donné une bonne idée. Tu sais, donc il y a beaucoup de gens qui me disent que ça les a fait pencher un peu d'un côté, que ça leur a fait amorcer une démarche plus critique. Fait que ça, c'est déjà un bon point. Puis d'un autre côté, ben, la communauté scientifique aussi, j'ai des excellents feedbacks, autant des professionnels de la santé que des chimistes, physiciens, biochimistes, peu importe. Donc, je pense que finalement, tout le monde est content qu'enfin on essaie de revenir. Qu'on recommence à se poser les bonnes questions, ce qu'on n'a peut-être pas fait là, pendant quelques années, du moins ici.
Et donc tu as aussi enfin tu réponds un peu ces idées aussi par rapport au enfin dans le secteur professionnel en fait, à d'autres scientifiques ou à
Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas mon public cible, en fait. Mon public cible, c'est vraiment le grand public. C'est vraiment, moi, je m'adresse aux gens qui n'ont pas de formation scientifique. Mais c'est sûr que, tu sais, par expérience, je me rends compte que je suis lu quand même par beaucoup de gens de la communauté scientifique parce que eux, je pense que ça les aide. En tout cas, c'est ça qu'ils me disent. Ils me disent que ça les aide à expliquer certaines choses, soit à leurs patients, dans le cas des professionnels de la santé, ou même dans le cas des gens de science, ou de plus de, comme les chercheurs. Ça leur aide à expliquer certaines choses, des fois, qu'ils sont peut-être pas capables de le faire, qu'ils sont peut-être pas capables de le faire autrement, vu que mon langage, souvent, il est assez imagé, c'est beaucoup des métaphores, des analogies. Donc, je pense que ça leur donne un coup de main dans leur travail.
Oui, c'est vrai que je pense que bon, souvent au niveau du public, les gens ont l'impression que les scientifiques ou les médecins ou les pharmaciens sont forcément des experts de tous les sujets scientifiques qui touchent de près ou de loin à leur discipline, mais en fait c'est pas du tout le cas. Tu l'expliques bien dans ton chapitre sur les professionnels de la santé, où tu expliques bien que finalement on va dire les professionnels sont loin de tout connaître, n'ont pas toujours la réponse ou la solution, et souvent ils sont un peu dans des démarches d'essai-erreur où on teste une chose puis une autre.
Exact. Puis ça, la raison pourquoi j'ai écrit ce chapitre-là, en fait, c'est parce que il y a énormément en fait, il y a une mauvaise perception des gens du rôle des professionnels de la santé, puis qu'on peut même élargir aux scientifiques, ou qu'on devrait toujours avoir les bonnes réponses. Donc, par exemple, si une personne va voir son médecin, puis le médecin lui dit, écoutez, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que vous avez en ce moment, mais là, les gens sont fâchés, ils se sentent trahis, ils ont l'impression d'avoir un mauvais service, ils ont l'impression de faire face à quelqu'un qui est incompétent. Puis moi, je trouve que c'est un double standard parce que si on va, tu sais, les gens vont dire, quand je vais chez mon garagiste, mais mon garagiste, il trouve toujours qu'est-ce qui cloche dans ma voiture. Je pense pas qu'on peut comparer la complexité d'une voiture avec la complexité du corps humain. En tout cas, en fait, on peut pas du tout. Donc, il y a vraiment un problème de perception des gens face à la communauté scientifique. Et puis ça, c'est un gros problème parce que quand les gens perdent confiance en la communauté scientifique, ben vers qui ils se tournent? Ils se tournent vers des gens qui font des promesses extraordinaires, mais que malheureusement, ils n'ont pas la formation scientifique et puis qui vont les induire en erreur.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est clair que c'est un gros souci, hein. Les gens se tournent beaucoup plus vers les approches alternatives, alors que finalement ils ont certainement un travail à faire aussi sur eux-mêmes et sur leurs idées par rapport aux professionnels, quoi. Mais bon, voilà, il y a souvent un besoin de se rassurer, j'imagine, ou de trouver des informations certaines plutôt que des incertitudes. Je pense qu'il y a
Ben c'est
beaucoup de gens qui
sûr.
jouent ça, beaucoup de gens qui profitent de ça aussi pour se faire un business.
Ben, tout à fait. Moi, je le mentionne souvent dans mes conférences que sur Internet, quand on lit sur Internet, c'est vraiment majoritairement c'est l'appel aux émotions. C'est ça qu'on retrouve. On retrouve de l'information où on nous cite des anecdotes très qui parlent beaucoup, des anecdotes très puissantes d'une personne dont sa vie a changé après avoir fait telle ou telle chose. Ou bien encore quand on veut nous faire peur, on nous dit que les on nous cite des histoires d'horreur avec un vaccin ou des choses comme ça. Donc pour une personne d'aller sur Internet, ça vient rejoindre des émotions très profondes. Puis la science, c'est rarement ça. La science, souvent, c'est des affirmations. Les affirmations sont plus prudentes. On prend notre temps. On dit rien avant d'être vraiment certain. On se garde toujours une marge de manœuvre. On essaie d'être plus conservateur. Fait que c'est sûr que pour les gens, c'est moins excitant. C'est beaucoup plus excitant de croire des gens qui disent des choses qui ont l'air d'être vraiment catégoriques, alors que les scientifiques sont rarement catégoriques de nature.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et bon, moi, ça me fait penser aussi une autre chose qui est parfois un peu problématique. C'est pour revenir un peu aux professionnels de la santé. C'est que même les gens qui sont au courant, en principe, de ce que tu viens d'expliquer, de la démarche scientifique, ben, finalement, on trouve quand même dans les scientifiques ou les pharmaciens ou les médecins des gens pour faire quand même la promotion de toute une série d'approches tout à fait alternatives
Vraiment.
qui sont un peu contredites par la démarche scientifique justement, et on se demande parfois comment ça se fait que des gens qui sont scientifiques font quand même la promotion de ces approches, quoi.
Tout à fait. Puis d'ailleurs, moi, j'en suis venu à une conclusion que certains de mes collègues n'aiment pas, mais je crois que les professionnels de la santé ne sont pas des très bons scientifiques. Donc, par exemple, un médecin, un pharmacien, on n'est pas des scientifiques de très haut niveau, de manière générale. Donc, la façon qu'on est formé, c'est qu'on est formé beaucoup plus pour appliquer des protocoles. Donc, pour appliquer vraiment des démarches de travail, des organigrammes, des arbres décisionnels. Mais il y a très peu de professionnels de la santé qui se sont retrouvés dans un contexte de science expérimentale. Donc, vraiment, dans un laboratoire, par exemple, à faire des expériences, à devoir tester des hypothèses, à être devant le fait, par exemple, que toutes leurs hypothèses sont fausses et puis qu'ils doivent repartir de zéro. Donc, ça amène finalement les professionnels de la santé à prendre peut-être certaines choses pour acquis, à être portés aussi à certains biais, et puis à peut-être pas critiquer la science assez. Donc, ça, c'est un gros problème parce qu'après, on se retrouve avec des médecins qui soudainement se mettent à parler de mécanique quantique et toutes sortes de choses en pensant que, étant donné que c'est des médecins, par exemple, qui en savent beaucoup sur la médecine, ben forcément qu'ils sont assez intelligents pour comprendre la physique quantique puis être capables d'en tirer des conclusions sur la santé. Puis là, tu écoutes leur discours puis c'est complètement faux du début à la fin. Il y a comme un manque d'humilité à quelque part, puis je pense que ça vient du fait que les professionnels de la santé sont peut-être pas formés comme des scientifiques suffisamment.
C'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, hein, de scientifiques qui étaient même reconnus dans une discipline et puis qui après font la promotion d'une approche très alternative qui n'a rien à voir avec leur expertise et mettent en avant leur diplôme pour dire regardez, je suis un grand chimiste et donc je vous dis que la thérapie quantique, ça fonctionne bien, quoi.
Oui, c'est classique. En fait, là, on regarde justement dans la plupart des scientifiques qui, tout d'un coup, ont changé leur fusil d'épaule puis qui sont rendus dans les thérapies alternatives. Souvent, le domaine dont ils discutent, c'est rarement leur domaine d'expertise. Et puis là, à un moment donné, on se demande, mais écoute, qu'est-ce qui leur a pris? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, ces gens-là ont complètement changé comme ça? Mais en fait, c'est que probablement qu'ils n'ont jamais changé. Ils ont probablement toujours été comme ça. Excepté que dans leur domaine d'expertise, ils sont peut-être très calés, puis ils sont probablement très compétents, mais malheureusement, ils ont des biais qui font que quand ils sortent de leur domaine d'expertise, ben là, ils commencent à perdre les pédales.
Oui, c'est ça. Donc, comme tu dis, finalement, on peut conclure en pensant que les scientifiques peuvent, dans certains cas, appliquer la démarche scientifique et l'esprit critique dans une discipline, mais ils peuvent aussi être totalement dans l'irrationalité, dans un autre thème, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on est scientifique ou rationnel dans un thème que l'on l'est dans tous les autres, en fin de compte.
Tout à fait. Et puis d'ailleurs, on regarde les gens qui sont dans le domaine tu sais, les gens qui s'intéressent au scepticisme, à la zététique, c'est pas forcément des gens qui ont des formes, qui ont toujours un background scientifique.
Ah, c'est vrai.
C'est des gens qui s'intéressent à la pensée critique, qui vont se poser plus de questions que la moyenne. Le fait d'être scientifique n'a pas nécessairement de lien avec ça. Le fait d'être scientifique, ça amène un bagage de connaissances, puis normalement une forme de réflexion qui ressemble à la pensée critique. Mais on peut avoir des scientifiques qui manquent de pensée critique, donc qui remettent pas en cause ce qu'on leur apprend, par exemple, qui sont pas capables de décortiquer une étude scientifique aussi. J'ai eu une discussion récemment avec un médecin homéopathe de la Suisse, dans le cadre d'une entrevue, pour un journal ici, local. Et puis, le médecin homéopathe, il a fallu que je lui explique c'était quoi une méta-analyse. Il savait pas ce que c'était. Il comprenait pas le principe, il comprenait pas en quoi une méta-analyse était plus puissante qu'une étude clinique isolée, par exemple. Lui, il trouvait que son étude avec 30 patients avait plus de poids qu'une méta-analyse où on a 10 000 patients, par exemple. Moi, ça m'épatait de devoir expliquer ça à quelqu'un qui a 35 ans d'expérience, mais c'est ça la vérité. Les scientifiques sont pas tous capables de critiquer la littérature autant qu'ils le devraient.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on imaginerait à premier lieu. On se dirait qu'on a tendance à se dire que les médecins doivent d'office savoir ce genre de choses, mais c'est pas forcément le cas. Et c'est vrai que c'est des bases de l'évaluation des résultats scientifiques. Si tu ne sais même pas la différence entre une méta-analyse et une étude isolée, c'est sûr qu'après tu peux facilement conclure que l'homéopathie ça a un effet prouvé par la science, quoi.
Ben oui, parce que à la limite, il y en a des, ben, en fait, il y en a des études, par exemple, sur l'homéopathie qui sont positives. Sauf que quand on prend l'ensemble des données, ça peut pas faire aucun doute pour un scientifique que l'homéopathie ne fonctionne pas. Il y a absolument pas l'ombre d'un doute quand tu regardes l'ensemble des données. Mais c'est sûr qu'il va toujours y avoir des études positives pour un paquet de raisons, tu sais.
Oui, c'est sûr. Donc, ça demande vraiment on va dire, un travail pour chercher un petit peu les méta-analyses ou les études systématiques et pour pouvoir en tirer des conclusions. Parce que sinon, on trouve tout et n'importe quoi, sur tout et n'importe quel sujet, finalement. Comme tu le dis, il y a toujours des études positives, même si elles sont très très rares, il y en a toujours, ne serait-ce que parce qu'il y a des biais ou des erreurs ou.
Effectivement, puis c'est de là que justement les gens, par exemple, qui vont faire des blogs sceptiques où ils vont décortiquer la littérature pour arriver à des à, pour être capable de rendre ça plus succinct. Mais là, c'est là que ça devient vraiment important. Moi, j'en lis beaucoup. Je lis beaucoup de sites web, de blogs, justement, où on décortique la littérature, comme ça, on la critique, on l'interprète. Malheureusement, tu sais, le problème, c'est que ce genre de contenu-là est pas vraiment accessible à tout le monde. Pas juste au niveau de la compréhension, mais au niveau de l'intérêt aussi. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'essaie de faire, dans le fond, c'est de dire, ben, garde, il y a des gens qui font du travail de défrichage exceptionnel. Et puis, moi, j'essaie de le rendre encore plus simple, tu sais, de le rendre encore plus vulgarisé, encore plus résumé, pour que ce soit accessible vraiment au maximum de personnes, à des gens qui ont absolument, qui savent même pas c'est quoi un atome ou une molécule. Fait que c'est comme le travail vraiment très, très près des gens. Il y en a qui font le travail en amont, ou que c'est vraiment plus là, du travail de défrichage qui est absolument exceptionnel.
Tout à fait. Et par rapport à ton travail, je me demandais, est-ce que tu pourrais un peu nous dire, finalement, quand tu reçois des critiques ou qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu dis ou avec la manière dont tu le dis, qu'est-ce qu'ils disent en fin de compte?
Ah, ben, il y a plein de choses. Justement, dans les derniers jours, il y a une sorte de discussion là, sur en dessous de ma BD sur l'acidité, la diète alcaline, puis tout ça. Ce que les gens disent, en général, ça peut être. Moi, je trouve que ça rentre un peu dans deux catégories, là, mais c'est finalement la même. Souvent, les gens vont dire, ben, écoute, pour moi, ça a fonctionné. Je connais aussi beaucoup de gens pour qui ça a fonctionné. Pour mon frère, ma sœur, mon cousin, mon facteur, ça a fonctionné. Donc, forcément que tu te trompes parce que, bon, moi, j'ai eu la preuve que ça fonctionne. Bon. Donc, les cas d'anecdotes, évidemment, qui ont beaucoup de poids sur Internet. Puis l'autre catégorie, ben, c'est des gens qui vont me dire des choses comme, tu sauras que la science n'a pas toutes les réponses bon, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va savoir dans 15 ans. Il faut être capable de voir plus loin que ce qu'on a appris à l'école, et la science est quelque chose qui évolue, et blablabla, puis tout ça. Tu sais, c'est principalement ça les deux types de critiques que je reçois, là. Soit l'anecdote ou encore le fait que je manque d'idéalisme scientifique, si on veut. Mais moi, je suis un peu comme, tu sais, comme je suis sûr que toi aussi, tu sais, dans, tu sais, les gens qu'on est sceptiques de nature, je pense qu'on manque pas du tout d'ouverture d'esprit, mais je pense surtout qu'on est des gens qui sont très prudents, qui sont des gens assez conservateurs. On n'aime pas les affirmations qui sortent de nulle part. On n'aime pas ça les gens qui affirment des choses sans avoir les évidences pour supporter leurs propos. Moi, c'est juste ça que je demande, tu sais. Donc, je suis prêt à discuter de n'importe quoi au niveau de science, mais par contre, qu'on n'affirme pas des choses sans avoir les preuves, puis qu'on ne cite pas non plus des études aléatoires au hasard sans même être capable de les interpréter. Beaucoup de gens m'écrivent en m'envoyant, ouais, mais qu'est-ce que tu fais de telle étude? Ils comprennent même pas en quoi cette étude-là apporte quelque chose à l'argumentation.
Oui, je pense que ça, c'est tout à fait vrai. C'est peut-être ça qui est difficile aussi à enseigner aux gens. C'est finalement comment est-ce qu'on fait le tri dans les données qu'on peut trouver sur un sujet. Parce que expliquer à des gens qui ne connaissent rien du tout à la démarche scientifique, par exemple que tu as dit tout à l'heure, qu'une étude isolée, bah, ça ne prouve pas que le phénomène existe ou est validé. Si toutes les autres études disent qu'il n'y a pas d'effet, bah, Voilà, mais ça, c'est pas facile à expliquer à des gens qui ne connaissent pas la démarche, évidemment, quoi.
Non, effectivement. Puis d'ailleurs, il y a tout un phénomène que moi, j'ai dans le livre, j'ai écrit un chapitre là-dessus, justement, où j'ai qualifié ça de hyperscience. Donc, le fait de que citer, à partir du moment où on cite une étude scientifique, ça nous donne automatiquement une allure de crédibilité. Mais le problème, c'est que n'importe qui peut citer des études scientifiques. Donc, moi, je peux aller dans la littérature, trouver une étude qui, en apparence, a l'air d'appuyer mes propos, mais que c'est pas du tout le cas, soit parce que c'est effectivement une étude isolée qui démontre telle chose, ou tout simplement parce que c'est une étude, en fait, qui a un beau titre, qui a l'air de dire quelque chose qui va appuyer ce que je dis, mais que c'est pas le cas du tout. Moi, ça, c'est un gros problème. À la limite, c'est un plus gros problème que la pseudo-science. La pseudo-science, je pense qu'on est capable de la reconnaître assez facilement. Mais on pourrait l'hyperscience, comme j'ai décidé de l'appeler, est plus difficile à reconnaître parce que tu peux avoir une personne qui va te dire, ben, OK, mais si tu avais lu les 12 études suivantes, tu dirais plus la même chose puis tu penserais comme moi. Donc là, ça suppose que moi, je dois lire les 12 études pour être capable de réfuter ses propos. Puis peut-être que si je prenais les 2, 3 jours nécessaires pour le faire, ben je me rendrais compte qu'il y a tort, mais est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça? Puis là, mais l'autre personne, aux yeux de tout le monde, a l'air d'être très connaissante, d'être très érudite sur le sujet. Moi, c'est un des principaux problèmes que je vis avec le pharmacien, là. Cette espèce de tendance-là à citer des études hors contexte, pour donner une impression qu'on sait de quoi on parle.
Je pense que tous les sceptiques sont un peu confrontés à cet argument, enfin ce type d'argumentation. C'est effectivement difficile à gérer parce qu'on ne peut pas répondre à l'argument lui-même puisqu'il n'est pas explicité en fait. Il faudrait aller voir les études, mais en même temps, on peut se référer à l'ensemble de la littérature ou aux méta-analyses, comme tu le fais, mais c'est vrai que par rapport à des gens qui connaissent pas la méthode scientifique, ça paraît pas forcément très convaincant, ce qu'on peut répondre à des gens qui ont ce type d'argumentation, quoi.
Vraiment. Puis moi, ça m'inquiète parce que moi, les gens qui consultent mon site, c'est surtout des gens qui n'ont pas de connaissances scientifiques. Donc, quand une personne vient sur mon site, laisse des commentaires ou il cite des études comme ça, ben, pour une personne qui ne connaît pas ça, automatiquement va voir le commentaire de cette personne-là et va se dire, OK, ce commentaire-là est laissé par une personne qui sait de quoi elle parle, puis qui a une certaine dose de crédibilité. Ce qui est rarement le cas par expérience. Donc, je me retrouve souvent devant des situations où, à un moment donné, des fois, j'ai peur que mon site web devienne pratiquement un tableau comme un babillard pour les gens qui veulent donner une impression de crédibilité. Ça, c'est un gros problème.
Ça c'est effectivement un risque. Je pense que c'est pour ça qu'il y a certains sites qui interdisent les commentaires aussi.
Oui, puis j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé, mais je trouverais ça dommage en même temps parce qu'il y a des très bonnes discussions qui se font. Donc là, tu sais, je les laisse, les discussions, mais par contre, tu sais, quand je vois justement quelqu'un qui fait ça, qui publie pour essayer d'avoir l'air de savoir de quoi il parle, puis que je vois très bien que c'est pas le cas, ben là, je m'assure de répondre puis de remettre les pendules à l'heure.
Vu que tu parlais de cette hyper science, ça me fait penser à une critique que j'avais entendue sur le groupe zététique justement, qui disait que c'était un peu dommage que tu ne citais pas plus les sources pour chacune de tes mini interventions dans le livre. Et je pense que ton chapitre sur l'hyperscience répond justement un peu à cette critique. Est-ce que tu peux un peu expliquer justement pourquoi tu ne cites pas les sources tout le temps et pourquoi ça serait pas vraiment utile à ton avis?
Ben, en fait, c'est que tu sais, des sources, j'en ai, je pourrais les citer. Dans la plupart des cas, ce serait des choses assez générales, par contre, parce que les sujets dont je traite souvent, c'est vraiment de la base. Je vais rarement dans le détail. Mais le problème que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'articles, en fait, il y a beaucoup de choses que je consulte sur Internet. Les gens m'envoient, bon, on nommera pas de sites, là, mais on les connaît tous, là, des sites justement où ça parle de santé. Ils disent des choses qui ont aucun bon sens. Et puis à la fin de l'article, il y a 25 références. Puis là, on est porté à croire que parce qu'il y a 25 références, ben nécessairement que ce qui est dit dans l'article est appuyé par ces propos-là, puis c'est pas du tout le cas. Moi, ça m'écœure. Moi, en plus, l'autre chose aussi, c'est que je me dis, tu sais, les références que je consulte, probablement que mes lecteurs, qui sont des gens qui sont pas dans le domaine des sciences, les consulteraient probablement pas. C'est sûr que, tu sais, je dirais que j'ai une relation un peu ambivalente par rapport à ça. Occasionnellement, je vais les citer, les références, quand je sens qu'il y a matière à débat. Comme par exemple, ma bande dessinée sur l'équilibre acido-basique, par exemple, tu sais, j'ai cité toutes mes références parce que je sentais que j'allais avoir des contradictions. Puis ça, c'est peut-être ça que, si je regarde en rétrospectif, il y a peut-être certains sujets où je les aurais mis les références. Puis ça m'aurait peut-être évité certaines discussions, mais la vérité, c'est que je pense pas que ça m'aurait évité certaines discussions. Je pense que j'aurais eu les mêmes objections pareilles. Dans le livre, je les ai cités, les références. Parce que je pense que quand c'est sous forme de livre, je pense que c'est important de les avoir. Donc, à la fin, j'ai une section où je cite pas mal tout. Moi, c'est vraiment pour ça. C'est parce que je voudrais pas citer des références uniquement pour avoir l'air crédible. Puis je blâme souvent ceux qui le font. Mais il y a des arguments pour et contre. Quand il y a des gens qui me disent ça, qui me disent tu devrais citer tes références, je leur dis tu as tout à fait raison. C'est vrai que je devrais le faire. Puis quand les gens me posent des questions spécifiques, mais à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je leur réponds en citant certaines des références que j'ai utilisées.
Alors, moi je voulais juste te poser une petite question aussi sur le chapitre. La partie qui traite des discussions en famille ou avec les amis,
Ouais.
parce que c'est bah ça m'a vraiment intéressé, notamment parce que c'est un thème qui revient très très souvent sur le groupe zététique ou chez les sceptiques, qui ont tous beaucoup de mal finalement à discuter de ça avec les gens qu'ils croisent dans leur vie de tous les jours. Et bah toi tu proposes une série d'idées ou de suggestions. Je voulais voir si tu pouvais nous dire un petit peu plus là-dessus en fait pour les auditeurs.
Ben, moi aussi, j'ai remarqué ça. En fait, les gens qui sont très sceptiques de nature, c'est pas des gens qui sont toujours très habiles pour être capables d'en discuter à l'intérieur des cercles, en fait, à l'extérieur des cercles sceptiques. T'sais, entre esprits sceptiques, ça va bien parce qu'on pense tous de la même façon. Mais quand tu arrives avec des gens qui n'ont pas nécessairement une pensée qui est rationnelle ou une démarche scientifique, ça devient plus difficile. Puis moi, je le vis constamment, je le vis avec ma famille, je le vis avec ma copine qui aime plusieurs thérapies alternatives d'ailleurs. Et puis, je le vis avec mes amis aussi. Donc, puis moi, à l'occasion, je m'y suis très mal pris aussi pour discuter de certains sujets. Il y a certaines erreurs vraiment que je voulais montrer aux gens que, en fait, je voulais leur démontrer qu'il y a certaines erreurs à ne pas commettre. Donc, par exemple, de se mettre en colère, c'est une des pires choses à faire. Donc, perdre son calme, prendre ça personnel, donc assumer que si une personne n'est pas d'accord, c'est parce que elle veut nous attaquer nous personnellement. Je voulais donner des trucs aussi, comme par exemple que c'est important de poser beaucoup de questions parce que souvent, les gens me disent, j'aimerais ça être aussi bon que toi pour contredire les fausses croyances, mais j'ai pas de connaissances scientifiques. Puis moi, je leur dis, vous n'en avez pas nécessairement besoin. Posez plein de questions, puis souvent, magiquement, quand on pose plein de questions à une personne qui nous fait des affirmations farfelues, mystérieusement, la confiance de cette personne-là commence à diminuer. Donc, je me souviens, par exemple, une fois, j'étais dans une conférence, puis il y avait une ostéopathe qui me disait qu'elle faisait des massages, des manipulations ostéopathiques à des bébés naissants, des bébés qui avaient quelques jours. Puis moi, ça m'a profondément choqué. Et puis tout ce que j'ai fait, mais moi, j'avais pas les évidences pour ça, mais tout ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé plein de questions. Je l'ai vraiment bombardé de questions. Je lui ai dit, bon, mais d'accord, mais c'est pourquoi vous faites ça? Sur quoi vous basez pour faire ce type d'intervention-là. Ah oui, vous avez eu des cas, OK, vous avez eu beaucoup d'histoires de succès. Avez-vous eu, au contraire, des histoires où ça a échoué? Avez-vous eu des cas où ça a tourné mal? J'ai posé plein de questions, puis je l'ai senti fondre devant moi, cette personne-là. J'ai senti que la confiance qu'elle avait sur son affirmation initiale allait en diminuant. J'ai senti qu'elle commençait à être même paniquée. Puis à un moment donné, elle m'a dit, il faut que je m'en aille aux toilettes. Et elle est partie, puis elle n'est jamais revenue. Tu sais, les gens qui n'ont pas la force de leurs convictions, qui n'ont pas vraiment les qui n'ont pas la, qui ont pas vraiment les évidences puis les preuves pour supporter ce qu'ils vont dire. Souvent, ces gens-là sont assez faciles à identifier, tout simplement en leur posant les bonnes questions. Donc, c'est ça que je voulais inviter les gens à faire. Puis ça, n'importe qui peut le faire, même sans avoir de formation scientifique.
Tout à fait. Et finalement, c'est des très vieilles méthodes, hein, parce que ça fait penser à la méthode socratique dans l'Antiquité, qui consistait à feindre l'ignorance pour
Ah oui.
amener les gens à essayer d'exprimer leur point de vue et les ambiguïtés de leur point de vue ou les incohérences. Mais je pense que c'est évidemment en théorie, c'est plus simple qu'en pratique, parce qu'en pratique, tu as les émotions qui s'en mêlent et c'est pas toujours facile de ne pas s'énerver. Pour les gens, par rapport à leurs affirmations qui contredisent un peu notre vision du monde ou nos valeurs, quoi.
C'est très difficile, puis pour moi aussi, ça l'est. Il y a des gens avec qui justement, je discute de sujets comme ça, puis ça me prend toute mon énergie pour pas pogner les nerfs, pour pas m'énerver. C'est vraiment pas des discussions faciles, mais je pense que j'avais envie de dire aux gens, voici comment on devrait s'y prendre dans un monde idéal. Puis de leur donner des trucs aussi, tu sais, de reconnaître certains types d'arguments qui n'en sont pas. Par exemple, des gens qui vont citer des anecdotes, des gens qui vont aussi faire un appel à l'autorité en disant mon frère travaille dans une pharmacie puis il m'a déjà dit telle chose, et reconnaître qu'est-ce qui est une autorité crédible versus une autorité qui ne l'est pas. Pour nous, c'est des choses, tu sais, dans le domaine de la zététique, du scepticisme, c'est des choses assez évidentes, des choses de base, mais pour la majorité des gens, ça ne l'est pas du tout.
Tout à fait. Donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, juste un message rien que pour vous. Donc, continuez à persévérer pour essayer de contrôler vos émotions lors de la communication. C'est difficile pour tout le monde, même pour Olivier Bernard aussi. Et pour les autres sceptiques vétérans, c'est toujours difficile. Donc, c'est vraiment une habitude qu'il faut pratiquer, quoi.
C'est très difficile. Si j'étais une personne agressive ou violente, je suis sûr que des fois, je donnerais quelques coups de poing au cours de mes discussions, mais je le suis pas du tout. Je suis quelqu'un de très pacifique. Donc, moi-même, je m'énerve puis je me retire de la conversation uniquement par souci de garder ma paix d'esprit et puis d'aller passer à autre chose parce que sinon, là, sinon ça serait terrible. Ma vie serait juste une série de confrontations perturbantes.
Et ça, c'est très 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 désagréable pour les sceptiques. Je pense que c'est une étape à traverser parfois pour pas mal de gens finalement. On passe tous par cette étape à un moment ou à un autre, je pense.
Oui, puis c'est difficile aussi d'accepter qu'on doit choisir nos combats. Moi, j'ai accepté ça. J'ai accepté qu'il y a certains contextes. Par exemple, sur mon site web, j'ai l'opportunité de pouvoir justement de pouvoir avoir des discussions comme ça. Puis je trouve que c'est une bonne plateforme pour le faire. Par contre, par exemple, moi, puis la raison pourquoi j'ai écrit le chapitre d'ailleurs, Comment survivre à un dîner de famille, c'est parce que justement, en famille, c'est différent. Moi, en famille, j'ai pas envie de me chicaner avec le beau-frère ou la belle-sœur ou la belle-mère ou tout ça. J'ai pas envie de me chicaner avec ces gens-là juste pour des questions de scepticisme ou pour faire valoir mon point puis pour avoir raison. Donc, des fois, je dois me taire uniquement pour garder l'harmonie, si on veut. Fait que je dois nécessairement essayer de compenser à quelque part ailleurs, puis moi, je le fais avec mon site web.
Alors, peut-être une dernière question par rapport à tout ce que tu as dit dans ton livre. Il y a un chapitre aussi que j'ai trouvé sympa par rapport aux thérapeutes ou praticiens alternatifs en tout genre. Finalement,
Ouais.
tu donnais quelques critères qu'on peut utiliser pour se prémunir un petit peu des thérapeutes, on va dire, déviants ou dangereux ou un peu mal intentionnés. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça?
Oui, tout à fait. En fait, je donne 6 trucs. C'est des trucs, encore là, que pour dans le domaine de la zététique, ça va sembler très simple. Ça va ressembler probablement que des gens aussi vont penser à des à certains à une démarche que Carl Sagan, entre autres, a utilisée, des choses qu'on peut reconnaître facilement. Moi, j'en ai nommé 6. Le premier, c'était est-ce que le traitement est super simple, accessible immédiatement par tous et sans effort? Donc, par exemple, la guérison angélique, ben, il suffit qu'il suffise d'invoquer un ange pour guérir. C'est un peu trop beau pour être vrai. Deuxième, est-ce aussi la formation. Est-ce que la formation du thérapeute a l'air de sortir d'un film de science-fiction? Donc, souvent, par exemple, on regarde la formation des thérapeutes en Reiki. Et puis ils vont dire des choses là comme disciple en chamanisme et j'ai fait un stage sur les lumières célestes du troisième horizon et sur les 12 hélices de l'ADN. Tu sais, quand les gens, à un moment, tu sais, les gens savent pas si c'est vrai de la vraie science, mais ça devrait être un signal d'alarme quand on entend des choses comme ça. Troisièmement, est-ce que le thérapeute recommande d'abandonner la médecine moderne? Ça, c'est un signal d'alarme extrême. Quand un thérapeute te dit arrête d'écouter ton médecin, il a tort, c'est moi qui ai raison, ça devrait jamais se produire. Quatrièmement, est-ce que le traitement est sans aucun effet secondaire et sans précaution nécessaire? Par exemple, l'homéopathie. L'homéopathie, on nous dit, il n'y a aucun risque. Sauf qu'il n'y a aucun traitement en médecine qui a aucun risque. Ça n'existe pas. Un traitement qui a une efficacité a automatiquement des risques. Donc, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'efficacité. C'est aussi simple que ça. Cinquièmement, est-ce que le traitement promet des tonnes de bénéfices possibles? Donc, par exemple, on va nous dire, fais-toi un lavage du côlon par irrigation avec de l'eau ou du café, des choses comme ça. Puis ensuite, ça va guérir tes migraines, ça va guérir tes sinusites, ça va nettoyer ton foie, ça va guérir tes problèmes de peau, ça va enlever tes allergies. Tu sais, ça part dans toutes les directions. Mais en médecine, il y a rarement un traitement qui permet de faire autant de choses à la fois. Souvent, les traitements sont très ciblés. Fait que ça, c'est un signe. Puis le dernier conseil que je donne, c'est est-ce que le traitement fonctionne par une forme d'énergie ou une forme de phénomène mystérieux? Donc, par exemple, dans le cas du Reiki, encore une fois, on nous dit, ben, c'est une énergie, le ki, qui circule dans l'univers, puis qu'une personne est capable de canaliser pour aller faire des traitements. Je veux dire, toutes les formes d'énergie qui existent dans l'univers, on les a pas mal toutes détectées, là.
C'est sûr.
On les connaît, on est capable de mesurer la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, on est sur le point de découvrir comment la gravité fonctionne, tu sais. Je veux dire, s'il y avait une forme d'énergie aussi puissante dans l'univers qu'on pouvait canaliser pour faire des traitements, on serait capable de la mesurer. Donc, moi, je dis tout le temps aux gens, là, quand vous entendez le mot énergie, automatiquement, vous devriez assumer que tout le reste, c'est n'importe quoi. Jusqu'à preuve du contraire. Fait que c'est ça les 6 conseils que je donne. J'aurais pu en nommer plus, tu sais, j'aurais pu donner 20 conseils, mais moi, je trouvais que ces 6-là, pour le grand public, tu sais, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de critiquer les traitements, je trouvais que c'était déjà quand même bon, là.
Ouais, ça couvre déjà, je pense, une bonne partie des thérapies un peu bizarroïdes.
Oui.
Ok. Alors, peut-être une dernière question pour clôturer là-dessus. Est-ce que après le site et après le livre, est-ce que tu as d'autres projets particuliers pour le futur?
Ben, d'autres projets, oui et non. En fait, moi, mon projet surtout, c'est de continuer ce que je fais en ce moment. C'est juste d'entretenir le site web, de continuer à publier, peut-être de publier un deuxième livre. C'est déjà énorme là, pour moi, tu sais, avec mon travail de pharmacien, puis tout ça, c'est quand même très difficile de trouver le temps de faire tout ça. Donc, de là à dire que j'ai d'autres projets, j'en aurais des tonnes, mais de façon réaliste, je pense que juste de continuer à faire ce que je fais en ce moment, c'est déjà un accomplissement dont je suis fier. Donc,
C'est sûr.
pour le moment, ça risque d'être ça, là. Continuer à publier, écrire un deuxième livre, ce serait ça mes projets à moyen terme.
Ok. Bah, en tout cas, voilà, juste pour rappeler aux auditeurs, donc le site c'est pharmachien.com et le livre bah, porte le même nom. On le trouve partout. Moi, je l'ai trouvé à la Fnac. Ça se trouve un peu partout. C'est certainement en passe de devenir un best-seller. En tout cas, je le souhaite. Vivement. Et bravo pour ton travail, hein, que j'apprécie beaucoup personnellement. Et voilà, bah, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Et bah, je te dis à bientôt.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super agréable.
Merci à toi et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Scepticisme scientifique. Et à bientôt.